Éric Dupin. Et voilà, Éric Dupin, Jean-Marc Daniel, l'invité.
Ce qui est vrai, c'est que nos deux livres se situent sur des plans totalement différents. Donc,
d'où ma difficulté ce matin.
Ça peut être intéressant d'ailleurs pour le lecteur de voir à quel point on peut appréhender la réalité sous des angles qui sont tout à fait opposés. Moi, c'est pas du tout un ouvrage d'érudition économique avec beaucoup de références, avec des raisonnements qui peuvent être séduisants, qui peuvent être contestables aussi, parce que je me méfie tout de même d'argumentations intellectuelles brillantes qui sont peut-être parfois trop centrées sur un concept et parce que la réalité, justement, elle se situe à différents niveaux et que peut-être que la concurrence contre la rente, ce n'est pas forcément une thèse fausse. Ce n'est d'ailleurs pas forcément une thèse de droite, c'est une thèse libérale. Et parfois, dans ce pays, à tort, on fait l'assimilation entre le libéralisme, qui peut s'exprimer d'ailleurs suivant différentes sensibilités, et ce qu'on appelle la droite, qui est un courant historique lui-même divers, mais les choses ne sont pas pareilles. Bon, moi, ma démarche est complètement différente, puisque c'est une démarche de journaliste politique qui en a ras-le-bol des spectacles lamentables qui nous sont offerts. Je n'ai pas besoin de faire un dessin à l'actualité, nous donne tous les jours...
Je ne vous donne pas le Paris Match, alors, non plus.
Ne donnez pas le Paris Match. Chacun aura compris de quoi il est question, qu'il s'agisse d'un député qui ne paye pas ses loyers et ses impôts, ou d'autres péripéties du même ordre. Donc, depuis quelque temps, je continue à faire de l'analyse politique parce que c'est un peu mon cœur de métier. J'ai acquis une certaine compétence, peut-être au bout d'une trentaine d'années, mais je préfère explorer la société française. Et donc partir
mais
de
ce que... Est-ce que la société française que vous avez explorée là, après le fameux voyage en France que vous avez fait, c'est les Fricheurs, ce sont des gens qui, justement, par exemple, s'inscriraient en faux avec tout ce que peut défendre ou dire, expliquer un économiste comme Jean-Marc Daniel, par exemple?
Non, non, ils ne s'inscriraient pas forcément en faux. Ils sont... divers.
Est-ce qu'on est sur une confrontation ou même une séparation plutôt, ou est-ce qu'on est dans quelque chose qui est neuf mais qui n'est pas forcément en contradiction avec ce que défend Jean-Marc Daniel? C'est parmi les gens que vous avez rencontrés, 450 personnes, entre autres.
C'est pas forcément une contradiction terme à terme logique, mais il se situe dans un univers différent. Et ça qui est quand même important. C'est-à-dire que moi, mon critère...
Ils disent, puisque c'est la crise... Puisqu'on s'en sort pas, on va trouver d'autres moyens, nous.
Mon critère, là je vois des gens qui sont très divers, je vois des gens qui sont très en rupture avec la société, qui en effet vivent dans des yourtes, dans des conditions matérielles extrêmement frugales, jusqu'à l'économie sociale de gens qui sont dans des coopératives. J'ai vu le patron d'Acom, que Emmanuel Macron d'ailleurs a rencontré, vous voyez que nous avons quand même des points de contact. Acom, qui est la SCOP, donc la coopérative industrielle la plus importante de France. Donc qui est une entreprise de pointe, qui marche très bien, dont les salariés sont toujours propriétaires et dont ils ont toujours conscience d'avoir un droit de regard sur la marge de l'entreprise, même si, évidemment, ses dirigeants prennent les décisions stratégiques. Donc j'ai tout un éventail de gens que j'ai rencontrés là, au cours de ces deux années, qui sont des gens qu'on ne peut pas mettre dans le même panier. Ce ne sont
pas que des bobos écolos de gauche.
Ce ne sont pas que des marginaux. Voilà. Ce sont aussi ce que j'appelle des originaux. Mais ils ont un point en commun. C'est qu'ils sont en rupture, plus ou moins franche, avec un conformisme dominant que je résume, alors là, évidemment, c'est des mots, les mots en isme toujours sont contestables, par le consumérisme et le productivisme. Ouais. C'est-à-dire cette idée, alors là, sur le productivisme, on peut rejoindre la critique du raisonnement économique par la croissance, par le quantitatif. Donc, et par la compétitivité, par ces espèces de concepts qui rendent de moins en moins compte du réel. Le consumérisme aussi, c'est quelque chose qui nous fait croire que le bonheur, c'est d'acheter une montre qui doit être elle-même connectée à un smartphone, qui lui-même, etc., etc., et qu'il faut changer de ça tous les ans. Bon, ces gens sont en rupture par rapport à ça. Ils essayent de trouver d'autres chemins, étant entendu que la fidélité, y compris de l'économie, c'est le bien-être social, me semble-t-il. C'est pas des agrégats
et des tableaux. Ils sont à la recherche d'un bien-être. Alors, Jean-Marc Daniel, sur toutes ces considérations...
Oui, sur toutes ces considérations. D'abord, effectivement, je crois que le clivage gauche-droite est un clivage qui est de plus en plus dépassé. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez une droite qui est conservatrice, qui est favorable à la rente, qui n'est pas libérale. Bon, le cas de l'extrême droite est clair. Le programme du Front National est un programme d'extrême gauche à l'ancienne, néo-stalinien, donc il n'y a pas de... Mais vous avez aussi Nicolas Sarkozy, qu'on a présenté comme ultra-libéral quand on lui a remis le rapport Attali. 48 heures après, il a fait une déclaration en disant « Les pharmaciens jouent un rôle très important d'aménagement du territoire, nous ne remettrons pas en cause leur statut. » Et l'argument, c'était d'aménagement du territoire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une pharmacie dans les petites bourgades, parce que c'est un lieu... Le pharmacien, il n'est pas là pour aménager le territoire. Il est censé contribuer à l'amélioration de notre santé. Et donc, cet esprit, effectivement, cet esprit rentier est transpartisan. Et je pense que, effectivement, les défricheurs que décrit Éric Dupin, eux, ils sont contre cet esprit rentier. Ce qui est important, c'est de générer l'attachement à la liberté. Je crois que l'attachement à la liberté et derrière cet attachement à la liberté, la reconnaissance du talent. Je vais prendre deux exemples dans le livre d'Éric Dupin. Le premier, c'est un des personnages qu'il interroge. Il lui demande quels sont vos parrains intellectuels et il répond René Dumont et Raymond Barre.
Alors là, c'était pour vous, ça.
C'est exactement pour moi. Quelqu'un qui dit je vais innover, je vais renverser le monde, mais je vais le faire grâce à Raymond Barre. Pour moi, c'est idéal. Il a compris ce que disait Raymond Barre, qui était
qu'est-ce qu'il a compris ?
Il a compris ce que disait Raymond Barre. C'est-à-dire, dans Raymond Barre, c'est le dernier grand premier ministre que nous avons eu dans ce pays. Raymond Barre, c'est celui qui dit aux chômeurs, écoutez, n'attendez pas tout de nous, créez des entreprises. Alors, tout le monde dit, c'est odieux, mais...
Souvenez-vous que ça avait été extrêmement mal pris.
Ça avait été très mal pris, sauf que Raymond Barre avait dit, mais créez des entreprises, je vais faire en sorte d'alléger toutes les procédures administratives pour que ce conseil que je vous demande, quasiment cet ordre que je vous donne, vous soyez en état de le remplir. Et les deuxièmes personnages que je trouve intéressants, c'est effectivement ces gens qui, dans leur liberté, cherchent à vivre quasiment en autarcie, mais l'autarcie n'est pas agressive à l'égard des autres. C'est-à-dire que ce qu'ils vivent, c'est une forme d'égalité où chacun se détermine et chacun... Or, je crois, pour conclure, que la concurrence, c'est un outil qui correspond au fonctionnement des hommes. C'est-à-dire, les sociétés communistes ont généré du marché noir parce que le marché est consubstantiel à l'homme. Je prends comme exemple, un exemple que je trouve anecdotique, mais cette histoire le Père Noël est la dernière institution communiste qui existe encore. C'est-à-dire, les gens à qui on impose un cadeau à Noël, c'est-à-dire on vous fait un cadeau et tout ça.
Il est sur eBay maintenant.
Hein. Il est évidemment sur eBay.
S'il vous plaît pas, il est sur eBay.
Il est sur eBay.
Le marché se venge.
Le marché se venge. Vous imposez quelque chose à quelqu'un, même si c'est pour son bien, parce que dans le cadeau de Noël, c'est parce que c'est une tradition d'une affection que vous avez à son égard, et bien quand même, il va sur eBay parce que ça n'est pas conforme à ce qu'il attend.
Quand vous dites que les gens dont parle Éric Dupin ne sont pas dans une démarche forcément agressive, tout de même, il y a quelque chose qui n'est pas de l'agression, mais vous pointez, notamment sur le chapitre des îlots verts, Éric Dupin, que dans ces démarches-là, pointe le risque, écrivez-vous, de l'élitisme. Par exemple, les habitants des éco-villages peuvent être amenés à croire qu'ils constituent une sorte de petit peuple d'élus, parce qu'ils viennent aussi souvent quand même de catégories sociales privilégiées. Ça, c'est une remarque extrêmement intéressante que vous faites là, entre autres.
Oui, il y a quand même beaucoup de gens qui sont...
Ils sont sûrs d'eux, quoi.
Non, mais il y a quand même beaucoup de gens que j'ai rencontrés, très sympathiques, très positifs, très enthousiastes, de ce point de vue-là, ça remonte le moral, qui font des choses, qui sont dans le concret, qui sont dans la cohérence entre le discours et les actes, et ça nous change d'un certain nombre de gens par ailleurs, et qui sont en même temps en rupture par rapport à la société. Donc, il faut... pas donner une vision un peu bisounours de cette mouvance. Il y a notamment, il y a tout un spectre, et à l'extrême de ce spectre, il y a des gens qui n'ont pas comme référence Raymond Barre, qui sont plutôt des...
Pierre Rabhi, la référence. Et non, ça, il n'a pas cité Jean-Marc Daniel, Pierre Rabhi.
On va y revenir, mais la pointe extrême, ce sont des anarchistes, au sens vrai du terme. Donc des gens qui sont, par rapport non seulement à l'État, mais à beaucoup de choses, tout à fait en rupture. Le cœur de cet univers, ce sont des écologistes, pas entendus dans le sens du parti élevé, parce que pour eux, c'est un parti politique qui a participé au gouvernement, qui est trop inséré dans les institutions. Non, ce sont des écologistes dans le sens de l'écologie sociale. Ça, c'est très intéressant parce que ça nous... casse la caricature des bobos. Le bobo, vous savez, c'est la chanson de Renaud, le type qui a des discours, qui mange bio, et puis qui, en réalité, est très hypocrite et a un mode de vie bourgeois. Non, moi, j'ai vu des gens qui, réellement, vivent en fonction de leurs idées. Ils sont un peu en autarcie, en effet. Ils sont très dans le localisme. Mais ce sont des gens qui pratiquent, en quelque sorte, leurs convictions, ce qui leur donne une vertu d'exemplarité. Et en effet, Pierre Rabhi est la référence intellectuelle que j'ai rencontré pendant 2 heures. Donc il y a un chapitre du livre là-dessus qui est assez intéressant parce que, franchement, c'est un sage.
Et en même temps, vous dites qu'il n'y a pas plus loin que lui, de vous que lui, par exemple.
Plus loin, peut-être quand même qu'il y aurait des gens plus opposés. Mais en tout cas, c'est vrai que je ne suis pas de cet univers. Et donc le dialogue était assez intéressant.
Brice Couturier.
Alors, un des grands avantages de votre bouquin, Jean-Marc Daniel, l'état de connivence, c'est que vous pourfendez, je le disais en introduction, un certain nombre de clichés, de yaka, qui sont absolument omniprésents dans le discours médiatique. Hein. Protectionnisme, inflation, relance par les déficits, champions nationaux, tout le monde dit ça. À droite comme à gauche, à l'extrême droite comme à l'extrême gauche. Est-ce que ça ne fait pas simplement partie de la culture politique française? Est-ce que cette culture n'est pas à ce point partagée par les élites qui nous gouvernent, encore une fois, droite et gauche confondues, patronat compris, bien entendu? Et est-ce que, du coup, les libéraux de gauche, comme vous, n'apparaissent pas simplement comme une espèce de parti de l'étranger?
Oui, alors je trouve intéressant dans votre remarque.
On va recevoir des lettres encore.
Oui, pourquoi je fais partie de l'étranger? Parce que je me réfère assez souvent à la Grande-Bretagne, à l'esprit du Royaume-Uni. Je cite Gladstone, qui a été pour moi un très grand Premier ministre, donc je pense que beaucoup de gens ont oublié qui c'était un très grand Premier ministre anglais du 19e siècle. Juste une chose, l'esprit de Gladstone pour moi, c'est quand les industriels anglais viennent lui dire, écoutez, on a une concurrence déloyale des Allemands, il faut mettre des droits de douane. Il dit pas du tout, on va mettre sur les produits allemands made in Germany, et comme ça le consommateur anglais saura d'où viennent les produits. Si vous pensez qu'il considère que le produit allemand est un produit dangereux, il réagira à titre personnel par rapport à ses opinions, par rapport à sa vision du pays, par rapport à la qualité du produit. Donc c'est la liberté de l'homme qui lui permet de déterminer son comportement et de réaliser un équilibre. Alors, le deuxième élément...
Enfin, les libéraux français nous ont toujours vendu la Grande-Bretagne, Voltaire, Montesquieu, comme étant le modèle.
Absolument.
Mais finalement, on court toujours derrière et c'est toujours ressenti chez nous comme quelque chose, encore une fois, d'aliène.
Absolument, je pense, oui. D'ailleurs, je dis aussi dans le livre, dans une formule un peu que j'essaie d'être un peu humoristique, je dis François Hollande devrait oublier le Voltaire de la promotion Voltaire pour retrouver le Voltaire des lettres anglaises, c'est-à-dire, et notamment le chapitre commerce dans les lettres anglaises de Voltaire. Quant à toutes les mesures qu'on nous présente, qui sont effectivement le pur produit de la technocratie intellectuelle des années 70-80, qui est autour du keynésianisme, que ce soit l'inflation, que ce soit le protectionnisme, que ce soit la dette, toutes ces logiques sont des logiques qui commettent 2 erreurs fondamentales. La première, c'est que la solution est dans la baisse du pouvoir d'achat. C'est-à-dire que l'inflation, ça baisse le pouvoir d'achat. La dette, ça baisse le pouvoir de l'achat de la génération future. Donc, la solution est punitive. On va punir le peuple sans qu'on sache pourquoi il faut le punir. Qu'est-ce qu'il a fait, le peuple? De quel droit on va lui prendre son pouvoir d'achat? Et la deuxième erreur, c'est ma priorité, c'est l'emploi. Et je dis toujours, si sa priorité, c'est l'emploi, les démocraties populaires des années 60 sont un modèle abouti. Il y avait le plein emploi. La priorité d'une société, c'est pas l'artifice du plein emploi, c'est la dynamique de la création de richesses, de la croissance par la qualité. Donc, ma priorité, c'est la croissance, le pouvoir d'achat, l'entrepreneur. Et ça, la culture française n'arrive pas à s'y mettre. On continue à avoir une classe politique qui se déconsidère parce qu'elle n'arrête pas de dire ma priorité, c'est l'emploi et elle n'y arrive jamais. Et la conséquence de ça, c'est... Puisque ma priorité,
avec
c'est
des formules étranges pour l'économie, c'est inverser la courbe du chômage.
Et avec derrière tout ça, l'idée que puisque ma priorité c'est l'emploi, dans cette conservation, dans cet esprit conservateur, c'est là qu'on retrouve les rentes. C'est-à-dire que le seul outil, ça va être de généraliser la rente. Donc on va développer l'emploi public. Je dis, il faut exploser tout ce système vers ma priorité, c'est la croissance, le pouvoir d'achat, le dynamisme.
Éric Dupin.
Alors l'emploi, tout le monde veut créer des emplois. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui créaient eux-mêmes leur emploi.
Ouais, alors, voilà.
Ça nous ramène à Raymond Barre, sauf qu'il ne le faisait pas forcément dans cet esprit. Il y a toute une jeunesse, ça c'est quand même très important, qui est tellement évidemment consciente que le marché du travail l'attend peu, c'est un euphémisme, que, en plus de ça, qu'il y a une vision de l'entreprise qui n'est pas forcément très favorable, et ça peut se comprendre également compte tenu des contrats qui sont parfois proposés, que ces gens-là préfèrent parfois se créer des petites activités, gagnent pas beaucoup d'argent, parfois d'ailleurs ils ne travaillent pas à plein temps, mais ils ont une qualité de vie. J'avais rencontré, je ne sais plus dans quelle région, je crois que c'était en Dordogne, des charpentiers, des jeunes charpentiers, Cabana, ils se sont appelés, c'est un peu de l'humour, et qui véritablement arrivent à faire des charpentes pour des résidences secondaires. Ah, mais oui. Ils ne travaillent pas trop.
Les charpentiers indépendants.
Les charpentiers. Voilà, mais ils sont en groupe.
En,
ils sont
en Dordogne, ceux qui sont en Dordogne. Que
ils sont en groupe, ah, oui, voilà, c'est ça.
Mais ça, c'est, oui, c'est
il
un,
y a aussi,
c'est un très bel exemple.
Il y a aussi.
Ils ne font que reproduire quand même la question des compagnons et voilà, oui, qu'ils remettent un peu à l'ordre.
Il y a aussi un mouvement, un renouveau du mouvement coopératif avec des salariés qui reprennent les entreprises. La, l'entreprise, une entreprise qui est Seralep, ouais, qui est une entreprise d'isolateurs électriques, une vraie entreprise industrielle, ouais, reprise par un ancien syndicaliste CGT. Eh bien, l'entreprise fonctionne très bien. Mmh. Hein. J'aime l'entreprise, mais je l'aime encore plus quand elle est possédée, contrôlée par ses salariés.
Quand elle est à moi, quoi.
Et c'est vrai que j'ai aussi rencontré des tas de gens qui ont opéré des reconversions professionnelles. Un ancien financier qui, alors là c'est assez extraordinaire, a créé un centre équestre qui permet aux handicapés de retrouver de façon vraiment tout à fait spectaculaire leur capacité. Bon, bah, c'est une reconversion.
Mais il a fait fortune à Hong Kong, votre gars, si j'ai bien compris. Hein.
Il a beaucoup dans la finance. Ouais. Oui, mais enfin, reconversion. Ouais. Ou quelqu'un qui était un directeur de grand magasin et qui a créé, cette fois-ci, c'était dans le Gers, la ferme en, la ferme en coton, qui c'est un terme assez poétique. Et là aussi, une activité qui est à la fois une activité agricole et une activité sociale, au sens où on accueille aussi des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer, des personnes handicapées.
Il y a aussi, évidemment, l'exemple, un des plus anciens, les plus fameux, l'exemple du SEL, hein, ces fameux systèmes d'échange locaux, SEL, qui nous viennent du Canada et de Grande-Bretagne. Il y en a donc un à Paris, un SEL de Paname. Maïwenn Guizhou, des Matins de France Culture, a rencontré deux sellistes du SEL de Paname, créé en 1996, qui couvre le 13e, alors quand même, c'est important, hein, le 13e, 14e et 15e arrondissement de Paris avec 166 adhérents. Vous entendrez tout d'abord Daniel Herlot, fondateur du SEL de Paname, suivi de Jean-Louis Duvigneau, membre du SEL, au micro de Maïwenn Guizhou.
Les échanges, eh bien, ça peut être des services, faire du bricolage, garder des chats, des chiens, faire des courses, du soutien scolaire. Ça peut être aussi être un savoir. Enseigner le français, des cours de cuisine, de la plomberie. Ce qui compte, c'est ce que chacun peut apporter, y compris des choses qui ne sont pas mises en valeur. L'échange, ben, c'est recréer des liens sociaux. Le SEL, ce n'est pas une monnaie, c'est une mesure d'échange. Ce n'est absolument pas SOS Plomberie, ce n'est pas du troc, nous ne sommes pas des radins, et c'est une forme d'économie solidaire.
Les échanges n'ont pas lieu entre deux personnes. Mes offres dans le SEL de Paname, c'est des cours d'anglais, des cours d'allemand. Et la personne qui, elle, va m'offrir un service dont moi j'ai besoin, par exemple un réparage informatique, n'a pas du tout besoin d'apprendre l'allemand. Donc il n'y a pas, ce n'est pas entre deux personnes, sinon c'est un échange entre un membre du SEL et la communauté du SEL. Et c'est dans la communauté, en utilisant l'annuaire, qu'il trouvera la personne qui peut lui rendre le service qu'il demande. Une grande différence qu'il y a entre le SEL et le système capitaliste, c'est la question de la dette. Je peux accumuler des services que l'on m'a rendus sans moi en avoir rendu, ou en tout cas sans en avoir rendu dans la même proportion, dans le même volume, et ce n'est pas pour ça que je suis endetté. Ce qu'on considérerait comme une dette, c'est en réalité un engagement de ma part de rendre tant de services en fonction de ce qu'on m'a rendu à moi-même. C'est basé sur la confiance.
Ouais, un petit cours d'économie pour vous, Jean-Marc Daniel.
Oui, sauf que, enfin, je ne vais pas jouer sur les mots, mais prendre un engagement de fournir quelque chose, ça s'appelle une dette. Alors, ce n'est pas une dette, c'est autre chose, mais en réalité, c'est une dette.
C'est le don et le contre-don. Moi qui suis assez sensible, le mouvement utilitariste en sciences sociales que vous devez connaître, moi, c'est plutôt Marcel Mauss, c'est plutôt ça ma référence.
Mais cela étant, c'est Raymond Barre pour Jean-Marc Daniel.
Chacun ses références. Cela étant, c'est vrai que là, nous avons entendu quelqu'un qui est une des personnes les plus attachantes que j'ai rencontrées. Il y a vraiment des gens formidables, des gens, attention, qui ont un rôle social, qui n'est pas d'ailleurs dans les institutions, mais qui est extrêmement utile. Avec cette question que je pose, juste en une seconde, c'est qu'évidemment, il y a une ambiguïté. La crise est telle, la crise s'approfondit à ce point qu'on peut évidemment se demander si ce genre d'initiative ne relève pas du pansement ou simplement de la façon de l'agent de bois. Mais en tout cas, il y a des initiatives d'économie sociale et solidaire qui sont formidables.
C'est ce que vous penseriez, Jean-Marc Daniel ? C'est un pansement sur une jambe de bois, cela dit, ou pas ?
Oui, ça peut être un pansement sur une jambe de bois. Néanmoins, ce qui est intéressant...
Mais après tout, c'est déjà un pansement.
Oui, c'est déjà un pansement. Et puis, je pense qu'il y a d'intéressant, aussi bien dans ces gens qui innovent, dans les thèses que je défends, c'est qu'on est aussi à une période de la société où les nouvelles technologies, la capacité à échanger énormément d'informations et à mettre beaucoup de gens en contact favorise cet esprit de concurrence. On disait que l'armée rouge et l'éducation nationale étaient les deux mastodontes qui... L'armée rouge est en train d'exploser. Je pense que l'éducation nationale aussi va exploser parce qu'il va y avoir des free schools comme au Royaume-Uni. Enfin, il va y avoir
J'ai vu beaucoup d'écoles alternatives. Notamment dans des zones rurales. Réalisations impressionnantes également.
À faire émerger, parce que grâce aux nouvelles technologies, on pourra échanger énormément, à faire émerger beaucoup d'initiatives locales qui seront en concurrence.
Brice Couturier.
Il y a quelque chose quand même qui me paraît vous opposer tous les deux, c'est l'idée du marché. Pour vous, Jean-Marc Daniel, visiblement, parce que vous êtes un libéral de gauche, encore une fois, vous pensez que le marché libère, les potentialités de chacun, ce qu'il faut arriver, c'est que chacun puisse accéder au marché. Alors que les gens que nous montre Éric Dupin sont souvent des gens qui précisément cherchent à échapper au marché.
Non, ou le marché local, ils sont attachés aux marchés locaux. C'est-à-dire que c'est une vision. Ils ne sont pas contre l'échange social. Hein. Ils sont contre une division sociale du travail ou internationale du travail excessive. Et là, je partage leur point de vue. Je pense qu'on est allé trop loin dans cette direction. Alors peut-être qu'ils ont une réaction inverse.
Est-ce
peut-être
que vous croyez que le marché libère, comme Jean-Marc Daniel le pense visiblement?
Moi, je suis plus modéré que ça, de ce point de vue-là. D'ailleurs, c'est l'inconvénient d'être d'une culture socialiste comme je le suis que par rapport à une culture libérale. C'est qu'aujourd'hui, les libéraux... ont toujours leurs croyances idéologiques assez chevillées au corps, alors qu'un socialiste honnête, il en existe, et quelqu'un qui doute beaucoup plus de lui-même.
Je ne commenterai pas socialiste honnête comme formule, je laisse les auditeurs le soin d'apprécier. Non, ce que je dirais, ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, il y a une espèce de réticence à accepter le mot marché, et donc on tourne, alors c'est pas de la dette, c'est des engagements, c'est pas du marché, c'est de l'échange, mais derrière tout ça, il y a le marché, et le marché...
Oui, mais il y a marché, marché.
Et le rôle de l'État par rapport au marché, ce n'est pas de vouloir le contrôler, c'est de faire en sorte que le marché atteigne effectivement tous ses objectifs. C'est-à-dire, je pense qu'une politique économique, une véritable politique, maintenant, ça ne peut être qu'une politique de concurrence, de sauvegarde de la concurrence.
Merci à vous, Jean-Marc Daniel et Éric Dupin. Je rappelle, Jean-Marc Daniel, l'état de connivence, en finir avec les rentes, ça sort aujourd'hui chez Odile Jacob et depuis hier, en librairie déjà, Les Défricheurs d'Éric Dupin, voyage dans la France qui innove vraiment.